Hervé Gattegno.
Bonjour.
Vous commencez avec une drôle d'histoire ce matin. L'ancienne ministre Marlène Schiappa avait prédit à Gabriel Attal, dès l'été 2021, qu'il deviendrait Premier ministre en lui tirant les cartes.
Oui, c'est le site du magazine Le Point qui le raconte. Marlène Schiappa, alors ministre déléguée et cartomancienne à 16 heures, a deviné avant tout le monde, grâce au tarot, la bonne fortune à venir de son jeune collègue. Sur les quatre cartes qu'elle lui tire ce jour de juillet 2021, la première à gauche symbolise l'énergie de Gabriel Attal, les deux cartes du centre, les énergies extérieures, et la carte de droite, censée dévoiler son avenir, est une figure féminine qui, au tarot, symbolise l'impératrice. « Il faut que je devienne une femme pour avoir une promo », ironise alors Gabriel Attal. « Non, c'est une femme de pouvoir plus âgée qui est positive pour toi », corrige alors Marlène Schiappa.
Mais alors, qui est cette femme positive et plus âgée qui sera la bonne fée de Gabriel Attal? Évidemment, c'est une figure protectrice. C'est Brigitte.
Eh bien non,
mais à l'époque, c'est pas Brigitte Macron.
Mais non, et à l'époque, tout le monde pense que c'est Brigitte Macron, parce que le futur Premier ministre, alors porte-parole du gouvernement, passe du temps à l'Élysée, qu'il s'est rapproché du couple présidentiel, et surtout, en effet, de la Première Dame, à qui il rapporte de ses déplacements des douceurs pour agrémenter sa table. Mais Marlène Schiappa a une autre idée ce jour-là. Pour elle, l'impératrice révélée par les cartes est une ministre, ancienne ou future, qui va te coopter avec qui tu vas bosser, dit-elle à Gabriel Attal, ou dont tu vas prendre la place. À l'époque, écrit Le Point, ces mots restent sibyllins et Attal, que l'on découvre superstitieux, passe à autre chose. Depuis deux jours, ces mots s'éclairent donc d'un jour nouveau. C'était d'Elisabeth Borne qu'il s'agissait,
bon,
et Gabriel
oui.
Attal vient bel et bien de prendre sa place. Le Point ne dit pas si Marlène Schiappa a lu son propre avenir dans les cartes, mais son retour au gouvernement ne semble pas pour cette semaine.
C'était Elisabeth Borne, première.
Et oui, bien sûr, l'impératrice.
Du nouveau Premier ministre et de son gouvernement, il est évidemment beaucoup question encore dans la presse du jour.
Avec, il faut bien le dire, plus de conjectures que d'informations précises sur le futur gouvernement. Mercredi, raconte Le Parisien, Emmanuel Macron a plusieurs fois souri en voyant sur le poste de télévision situé dans le bureau voisin du sien, les chaînes d'infos alimenter le casting éventuel. La nomination de Claire Chazal à la culture, par exemple, serait balayée par l'Élysée. Christine Lagarde aurait refusé le Quai d'Orsay. Le Figaro, lui, écrit que l'avenir de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, les deux poids lourds du gouvernement, serait dans la balance. Libération cite cette confidence entendue à l'Élysée. Il y aura des sorties, car on va resserrer. Il n'y aura pas 39 ministres ce jeudi. Vous avez bien entendu, ce jeudi, cela semble vouloir dire que la nomination du gouvernement serait donc pour aujourd'hui.
Moi, je sens qu'ils ont besoin qu'on leur tire les cartes, parfois, les services politiques. Si elle n'est pas reconduite, la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudeau, le devra sans doute à ce que Le Parisien appelle l'affaire Urgot.
C'est l'affaire des cadeaux empoisonnés, titre Le Parisien, offert par le laboratoire Urgot à des pharmaciens entre 2015 et 2021, dans le cadre de pratiques commerciales que la répression des fraudes juge illicites. Avant d'être ministre, Madame Firmin-Lebaudeau aurait accepté des faveurs d'une valeur de 20 000 euros. Elle a été entendue mardi par la police à ce sujet. Les convocations pleuvent, écrit Le Parisien, qui consacre sa une à cette affaire. Selon le journal, 8 000 pharmaciens seraient dans le même cas. Urgot leur offrait, pour qu'ils renoncent à des remises commerciales sur le prix de ses produits, des réfrigérateurs, des téléphones, des caisses de champagne, des montres de luxe ou des baby-foot. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la pharmacie. Le montant total de la fraude est estimé à plus de 55 millions d'euros quand même.
Vous vous souvenez de la pub, il y a de l'Urgot dans l'herbe, il y a des cadeaux dans Urgot. Ouais. Tout à fait autre chose, l'Express publie une enquête sur la pratique bien française de changer les noms des rues au gré des évolutions politique.
Dans une époque où tout est symbole et où on déboulonne les statues, le magazine explique que l'attribution des noms de rues et de lieux publics est devenue la continuation des batailles politiques par d'autres moyens. Plusieurs municipalités ont débaptisé des rues et des places Adolphe Thiers parce qu'il avait participé à l'écrasement de la commune en 1871, ou rayé le nom d'Alexis Carrel, prix Nobel de médecine. médecine dont les travaux sur l'eugénisme sont plus que contestés. À 7, la place Stalingrad est devenue place Victor Hugo. À Beaucaire, le maire Rassemblement National s'est amusé à nommer une rue du Brexit à côté de la rue Jean Monnet. Et dans beaucoup de villes, on féminise aujourd'hui les noms de rues. L'Express relève néanmoins qu'au-delà des querelles politiques, cette pratique mécontente souvent les riverains exposés aux tracasseries administratives d'un changement d'adresse.
On termine avec une autre bataille, celle qui oppose les enfants d'Alain Delon et qui tourne au règlement de compte autour de la santé de leur père.
Oui, mauvais feuilleton dans lequel le plus grand acteur français joue bien malgré lui le rôle d'un moribond dont les héritiers se disputent la faveur, sinon la fortune. Dans Paris Match, Anthony Delon accuse sa sœur Anouchka d'avoir caché des tests cognitifs qui montreraient l'état de grande vulnérabilité de leur père. Réplique d'Anouchka via le Figaro, la fille accuse ses frères d'avoir arrêté brutalement tout traitement médical vital et a adressé un signalement à la justice pour mise en danger de la vie d'Alain Delon. Il faut maintenant espérer que la justice intervienne car le déballage familial tourne au sordide.
Et dans Le Point, c'est Bernard-Henri Lévy qui lance un appel pour que cesse ce détestable spectacle.
Oui, un appel et une sorte d'ultime hommage à l'acteur. Voici que ce vrai guépard, devenu lion, écrit BHL, a décidé de se retirer dans la maison qu'il aime. Et ses enfants, dont je ne dirai rien sinon qu'ils ont tous à leur façon hérité de l'insaisissable grâce de leur père, se déchirent sous ses yeux et, ce qui est pire, sous les yeux carnassiers de la foule. Cet outrage est plus qu'une faute de goût. Cela est décidément trop abject, trop avilissant, trop sordide, pour lui, pour son œuvre, mais aussi pour les jours que la vie lui décompte et que les chiens ne semblent occupés qu'à lui retirer, comme s'il fallait lui faire payer d'avoir été parfois cinglant et grand. Seul comme il l'a toujours été depuis ce point de l'âme où les hommes conservent par devers eux ce qui ne peut être vu de personne et leur offre un perpétuel sursis, Delon trouvera la force de sortir du bain de boue qu'on lui inflige au fil d'un feuilleton cannibale. C'est fort et c'est assez juste, mais dans le vacarme ambiant, est-ce seulement audible ?
Tant que c'est lisible, dans Le Point, comme l'éditorial hebdomadaire de Franz-Olivier Gisbert, c'est ça qui compte et qui permet de faire des revues de presse. Hervé Gattegnaud, à demain.
À demain.
Merci beaucoup. Dans un instant, je le citais à l'instant, Franz-Olivier Gisbert et son regard acéré et cruel parfois sur le tournant politique du quinquennat. Il vous dit...